L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce tout nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, c'est la rentrée 2022. On va s'intéresser à l'assurance vie, le placement préféré des Français. Et oui, c'est vrai, malgré le fait qu'elle soit parfois décriée, cette assurance vie reste le placement préféré des Français avec une enveloppe qui continue à gonfler. Bien sûr, grâce à l'épargne Covid, on pourrait dépasser les 1900 milliards d'euros d'épargne d'ici à quelques semaines. Alors pourquoi cet engouement sans faille de la part de nos concitoyens, qu'ils soient financiers, fiscaux, juridiques, contractuels? Quels sont les charmes discrets de l'assurance vie? Le placement est-il toujours le couteau suisse de l'épargnant? Quelles innovations ces dernières années? C'est ce que nous allons découvrir avec nos deux invités. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bayot. Bonjour Philippe.
Bonjour Fabrice.
Enseignant à Paris 1, évidemment, en droit de l'assurance. Et à vos côtés, Jean-François Pirot. Bonjour Jean-François.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes Managing Director à Rothschild Martin Morel, banque privée. C'est bien ça.
Tout à fait.
Et vous êtes tous les deux les co-auteurs de cet ouvrage que je montre, donc « La fiscalité de l'assurance vie », qu'on a pu mettre, évidemment, sous le sapin, puisqu'il est sorti il y a quelques semaines. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est un ouvrage un peu plus technique. On va voir tout ça avec vous. L'Hebdo Patrimoine spécial Assurance Vie, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Philippe Bayot, on commence avec vous sur ce sujet de l'assurance vie. C'est vrai que c'est un peu le marronnier de rentrée pour les journalistes financiers, en tout cas, puisqu'on va s'intéresser dans quelques jours, on va avoir les taux. On sait que ces taux sont en train de baisser. Hein, on va tangenter vers les 1,1%, ce qui n'est pas énorme, vu en plus les chiffres de l'inflation qui repartent à l'hausse. Et pourtant, les Français continuent à épargner massivement. Je crois qu'on a plus de 130 milliards d'euros qui ont été collectés sur ce placement l'an dernier. D'un mot, voilà, pour défouler un petit peu le sujet. Comment expliquer cet engouement extraordinaire des Français qui ne se dément pas depuis plus de 30 ans maintenant?
Alors l'assurance vie et son succès s'expliquent essentiellement par la courbe des taux longs en euros, qui sont passés depuis les années 80 de 15% à aujourd'hui 0%. Donc pendant près de 40 années, l'assurance vie, au sens de fonds de support en euros, s'est révélée exceptionnellement en phase avec l'évolution des marchés financiers. Et donc à profiter d'une création de richesse exceptionnelle grâce à cette baisse des taux. Alors naturellement, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une forme d'aboutissement de cette courbe. Et vous avez cité dans votre introduction que le rendement des fonds en euros venait à diminuer. Et surtout, aujourd'hui, exceptionnellement, cette année, le différentiel avec l'inflation va se trouver être négatif. C'est une situation tout à fait nouvelle.
Alors on explique, ça veut dire qu'avoir de l'argent sur son fonds euro dans son assurance vie cette année, mécaniquement, si on gagne 1% et que l'inflation est à 2, ben on va perdre le différentiel.
Voilà, c'est pourquoi les professionnels, donc l'ensemble de la profession, tend à conduire, à accompagner les consommateurs qui se sont habitués au charme des fonds en euros, à arbitrer au sein de l'enveloppe assurance-vie, qui reste extrêmement intéressante sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan contractuel, vers des contrats dits en unité de compte, donc qui permettent de faire des arbitrages vers l'ensemble des actifs financiers qui sont à la disposition des épargnants français, donc vers des actions, des obligations, de l'immobilier, vers des actifs luxembourgeois, du private equity. Donc l'enveloppe est tellement riche sur le plan financier de l'assurance vie qu'elle garde tous ses charmes si on veut bien arbitrer du fonds en euros vers des unités de compte et également profiter de ses avantages juridiques et contractuels.
On va les détailler tout au long de cette émission. Jean-François Pirot, pour compléter, c'est vrai que là, les Français sont vraiment incités, et je pense vos clients, évidemment, à bouger, finalement. Le placement sans risque, voilà, dont parlait Philippe il y a un instant, sans risque et rémunérateur, on était encore il y a quelques années à 4-5%, ça, c'est terminé.
Oui, c'est terminé. On voit, compte tenu de l'évolution des taux dont Philippe a parlé, que ça devient aujourd'hui pénalisant. Néanmoins, ça a toujours du sens, ce fonds euro, pour disposer d'une enveloppe sécuritaire, ne serait-ce que dans l'attente de déployer son argent sur les marchés financiers. Mais on est amené à bouger. Donc on voit que nous, pour nos clients, la quote-part de l'investissement se fait majoritairement sur les unités de compte dont parlait Philippe, et qu'on peut déployer soit au choix du client lui-même, soit via des mandats de gestion qui peuvent s'insérer au sein des contrats d'assurance vie, les souscripteurs pouvant donner la main à un gestionnaire financier. Donc clairement, le mouvement est vers les unités de compte.
Le mouvement vers les unités de compte et ces unités de compte, hein, ces fameuses UC dont on entend beaucoup parler, on voit que la part est en train de progresser. D'ailleurs, ça y est, les Français commencent à piger que ça va être compliqué, qu'il va falloir panacher. Et je crois qu'on a des arbitrages. Maintenant, c'est quoi? C'est plus d'un tiers, c'est ça, des nouveaux investissements qui se font sur ces unités de compte?
Oui, vraisemblablement. Et en plus, ceci est encouragé, voire contraint, je dirais, par les assureurs, oui, qui aujourd'hui disent à un nouvel épargnant qui met une somme de 100 sur la table, oui, la compagnie va lui demander vraisemblablement à minima 40 ou 50% d'unités de compte. Donc
on
ça
précise.
Devient la politique commerciale des compagnies.
Alors on va préciser ce point, c'est très important, Jean-François Pierrot, quand on dit 100, on va préciser, ça ne sera pas 100 euros, on va vous laisser mettre vos 100 euros sur un contrat, mais si on passe sur des sommes beaucoup plus importantes, 100 000, 200 000 ou plus, c'est vrai que ça va coûter. Pourquoi ça coûte à l'assureur finalement d'avoir ces fonds en euros? Ça, c'est ce que le grand public a parfois du mal à comprendre.
Philippe, spécialiste des fonds euros.
Non mais pendant des années, les fonds en euros ont permis des investissements à des taux très élevés de obligataires à 10%, l'OAT étant à 10% par exemple, à 5% plus récemment. Aujourd'hui, l'OAT, donc l'obligation assimilée du Trésor français pour prendre un support typique, est inférieur à 0%. Mmh. Donc lorsque vous allez me confier votre argent, ce qui ne manquera pas d'arriver au terme de notre émission, vous allez me confier naturellement 1 million d'euros. Et ce million d'euros, si je l'investis entièrement, moi, assureur, en fonds en euros, je vais rencontrer la plus grande difficulté à satisfaire votre attente en termes de rendement financier, puisque le placement que j'aurai effectué sera à 0%, en simplifiant, parce que naturellement, je peux acheter des obligations corporates, je peux acheter des obligations du sud de l'Europe qui sont à des taux légèrement supérieurs. Mais tout cela va tendre vers un rendement de 0% de mes placements financiers. Et si je prends en considération mes frais très naturel, la rémunération de mes forces de vente, du marketing, l'ensemble des coûts de développement d'une assurance vie, alors le rendement va être clairement négatif. C'est pourquoi il va falloir vraiment accompagner nos clients, nos épargnants, d'une part, lorsqu'ils investissent une nouvelle somme dans l'assurance vie, investir en unité de compte, qui peut être très créatrice de valeur au regard de leur horizon de placement. Ayons à l'esprit que l'horizon de placement de nos épargnants est généralement très long, de 10, 20, 30 ans. Un simple exemple, à 60 ans, un couple a une espérance de vie à plus de 37 ans, c'est-à-dire que 37 ans après la souscription effectuée à 60 ans, l'un des deux partenaires sera toujours vivant.
Ah, bonne nouvelle là, pour tous ceux qui nous écoutent, là, qui sont dans ces âges-là. On pourra aller donc 60 plus 37, 97 ans.
C'est la moyenne, de 50% des couples seront encore, l'un des membres sera encore vivant.
Ouais, c'est madame en général.
Voilà, 5 fois sur 6, ce sera madame. Donc c'est pour nous une nouvelle qui est relativement satisfaisante, mais un petit peu morose. Mais très clairement, à ces horizons-là de placement, un placement aujourd'hui en fonds en euros, ça ne va pas s'avérer créateur de valeur. Inversement, un investissement en private equity, en actions, en immobilier, si on n'a pas déjà fait le plein de l'immobilier, va être très créateur de valeur et au sein d'une enveloppe juridique et fiscale qui reste une des plus privilégiées à la disposition d'un résident français. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut non pas simplement investir les nouvelles sommes dans les contrats d'assurance vie en unité de compte, mais également arbitrer l'essentiel de l'épargne en assurance vie qui est constitué de fonds en euros vers des unités de compte. Et c'est ce travail-là auquel doit s'appliquer naturellement l'ensemble des assureurs de la place.
Les assureurs, les conseillers en gestion de patrimoine qui orientent leurs clients.
Oui, Jean-François. C'était juste pour compléter par rapport à votre question, pourquoi les assureurs poussent vers les UC? Parce qu'au final, le fonds euro leur coûte plus cher en termes de capitaux propres. Donc il y a des ratios de solvabilité. Donc l'assureur doit avoir un montant minimum de capitaux propres qui lui permettent et de garantir le capital sur le fonds euro et de faire face à des mouvements sur les marchés financiers. Et ça coûte beaucoup plus cher aux assureurs.
Ça, c'est des contraintes réglementaires.
Ce sont des contraintes réglementaires qui sont le ratio de 1 pour 4.
D'accord.
Donc l'assureur sur du fonds.
Donc je donne 1 million à Philippe, il faut que l'assureur ait 250 000 euros de réserve.
Oui, il doit mettre 4% au niveau de ses capitaux propres, alors qu'uniquement 1% sur les unités de compte.
Ah, oui.
Donc au regard des mouvements actifs, passifs et de l'évolution des taux, ça coûte plus cher aux assureurs qui en plus ont donné des garanties en capital, ce qui a fait le succès des fonds euros. Et aujourd'hui, tout ceci est beaucoup plus dur à tenir compte tenu des taux qui sont quasi nuls, d'où le fait d'aller également vers les unités de compte pour l'assureur, mais pour le client, pour qu'il gagne aussi sa vie.
Messieurs, je rappelle que vous êtes les co-auteurs de la fiscalité de l'assurance vie. Alors bien sûr, il n'y a pas combien 390 pages ou presque 400 pages de fiscalité, de chiffres, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est sur la 5e édition. Je crois que vous avez rédigé les deux dernières. La dernière, Philippe, si je m'abuse, datée de 2008.
Voilà.
date phare hein, dans la tête des financiers, évidemment, la grande crise de 2008, la dernière qu'on connaisse avant cette crise Covid. Qu'est-ce qui a changé le plus radicalement? On a parlé des taux donc, qui ont extrêmement baissé. Quels sont les autres changements majeurs qu'on a pu connaître?
Alors, depuis la première édition de 89, en fait, la fiscalité l'assurance vie n'a cessé d'être érodée par les législateurs. Et donc, pour faire un zoom plus récent, depuis notre troisième et quatrième édition avec Jean-François, en fait, il y a eu deux mouvements importants. Donc, une dégradation continue des charges fiscales de l'assurance en cas de décès, mais qui offre toujours un différentiel assez important. En pratique, donc, si j'avais le bon goût de vous désigner comme bénéficiaire, et encore plus élégant de venir à disparaître, les sommes que je pourrais vous transmettre seraient exonérées à hauteur de 150 000 euros par bénéficiaire. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de limite dans le nombre de bénéficiaires que je peux mentionner sur mon contrat d'assurance vie.
D'accord.
Au-delà, les 700 000 premiers euros qui seront transmis à chaque bénéficiaire seront assujettis à une taxe de 20% qui se compare très agréablement par rapport aux droits communs et droits de succession. Et pour les quelques happy few qui pourraient encore transmettre au-delà de 700 000 euros à chaque bénéficiaire, alors le taux applicable est de 31-25%, qui se compare là encore très élégamment par rapport aux droits de succession, puisqu'en ligne directe, le droit de succession s'élève jusqu'à 40%, et en ligne indirecte, jusqu'à 60%. Vous voyez donc que l'assurance-vie a vu son différentiel fiscal s'éroder, mais reste tout de même toujours très intéressant.
C'était plus intéressant il y a quelques années, cette fiscalité?
Alors, dans les années 50, je vais prendre un exemple très long sur le temps long de la gestion de patrimoine. Les années 50 et 70, la fiscalité de l'assurance-vie profitait d'une exonération totale d'impôt sur le revenu.
D'accord.
Et de droits de succession. Et le versement de primes ouvrait droit à une réduction d'impôt très significative, l'équivalent actuel de 5 ou 6 000 euros. Mmh. Pour autant, vous voyez, nous avions un paradis fiscal. Pour autant, l'assurance vie ne recueillait moins de 2% de l'épargne financière des ménages. Simplement parce que les produits financiers de l'époque étaient relativement médiocres. Les chargements, donc les prélèvements effectués par les professionnels, étaient suffisamment significatifs pour que l'assurance vie n'ait aucun charme. Ce qui a vraiment fait le charme de l'assurance-vie sur le temps long de la gestion de patrimoine, c'est l'inversion de l'évolution des taux. Puisque de 1950 à 1980, les taux longs n'ont cessé de monter, et donc le fonds général de l'époque avait un rendement assez médiocre. Et à partir de 1980, donc la décision de Madame Thatcher en Angleterre et de Ronald Reagan aux États-Unis de casser l'inflation, l'inflation n'a cessé d'être écrasée. Et surtout, les taux lourds ont baissé et donc ont été incroyablement créateurs de valeur, encore une fois, pour les fonds en euros dont Jean-François dit qu'ils me sont particulièrement chers. Et aujourd'hui, on arrive simplement au terme de cette évolution de 40 ans. Et chacun de nos consommateurs, en fait, réfléchit avec un rétroviseur. Donc, se dit que ce qui a été bon dans le passé ne peut pas ne pas l'être dans le futur. Mais il faut, nous, développer une forte pédagogie pour expliquer à nos consommateurs que le charme de l'assurance-vie a été formidable, la création de valeur est gigantesque, mais qu'aujourd'hui, c'est le temps des unités de compte.
C'est vrai qu'il y a toujours cet aspect un peu technique des obligations qui fait qu'effectivement, quand ça baisse, on s'enrichit. Bon, voilà, c'est un peu l'inverse des actions. Le problème, Jean-François, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'inflation, ce qui viendrait des États-Unis, des pénuries, etc. On pourrait avoir le mouvement inverse. Hein, c'est ce que le marché, dans son ensemble, pour cette année 2022, voit comme le principal risque, avec des taux d'intérêt des banques centrales qui remonteraient. Bien sûr, ça rémunérerait davantage, mais qu'est-ce que ça dit pour les gens qui sont investis en fonds en euros aujourd'hui? Est-ce qu'on aura le mouvement inverse? C'est-à-dire que là, ils seront bloqués sur des contrats, finalement, qui donneront plus grand-chose.
Bon, le point premier, ce qui a fait le succès de l'assurance-vie, c'est qu'on n'est jamais bloqué. Donc parfois, on a en tête, pour revenir à la fiscalité, qu'on est bloqué 8 ans, qu'il y a des dates des années 70 ans dont on va reparler. On n'est jamais bloqué. On n'est jamais bloqué en sens qu'on peut toujours retirer son argent via le rachat. Les contrats modernes sont rachetables. Je mets de l'argent. Demain, j'en ai besoin. Je le ressors. Et au sein du contrat, je peux également arbitrer entre mes supports. En tout cas, les contrats modernes qui sont vendus depuis au moins une vingtaine d'années, permettent tous de faire des arbitrages. Donc si le fonds euro venait à être à ce point inintéressant, on peut toujours arbitrer. Je vends tout ou partie de mon fonds euro pour aller sur mes fameuses unités de compte. Juste pour être un tout petit peu rassurant sur le fonds euro, certes, il y a des mouvements sur les taux d'intérêt dont on a parlé, mais les assureurs disposent de réserves assez importantes. D'ailleurs, lorsqu'on s'apprête à souscrire un contrat, Il est bon de scanner un peu et l'assureur, et le fonds euro, et les frais. Il y a tout un travail préalable qui est à faire. Et les fonds euros, aujourd'hui, disposent de réserves assez intéressantes. Donc, ce n'est pas dans l'année qui vient que les fonds euros vont être amenés à totalement se mettre dans le rouge. Les assureurs disposent de trois types de réserves au niveau du fonds euro. Le premier, c'est ce qu'on appelle la PPE, la participation pour participation aux excédents. C'est-à-dire, globalement, les assureurs, tous les ans, peuvent mettre une cagnotte de côté.
Voilà, ils font un peu de gras.
Voilà, ils font un peu de gras pour les années dures. Et les années peuvent être plus compliquées dans le futur. Et ils ont 8 ans pour le redistribuer. Et les assureurs, il convient de voir, certains ont plus ou moins de réserves. Mmh. Mais ça représente quand même une somme non négligeable.
On leur reproche d'ailleurs souvent, dans la presse spécialisée, de thésauriser un petit peu plutôt que de redistribuer. Ils pourraient améliorer comme ça les taux ou faire...
Ils ont la main, hein, au final, pour piocher dans la réserve un petit peu, mais ils ont quand même une grosse contrainte du régulateur qui leur dit « Attention, les années vont être plus compliquées et je vous conseille vivement de mettre en réserve. » Donc ils ont quand même une pression très forte du régulateur pour mettre de côté. Hein. Donc ils ont cette PPE, ils ont aussi ce qu'on appelle la réserve de capitalisation qui va viser les postes obligataires proprement dit et qui va permettre, ils ont des plus-values sur ce poste, qui va permettre de tamponner avec des moins-values futures. Et enfin, ils ont des plus ou moins-values latentes sur les marchés. Mmh. Les marchés ont été bons ces dernières années. Par exemple, sur la Porsche Action, ils disposent de grosses plus-values latentes. Donc, ils ont quand même une jolie réserve. Hein. Donc, le taux baisse, mais baisse. On a vu qu'il baisse progressivement et les assureurs ont du gras. Après, on ne peut pas écarter un choc.
Ce sont des données publiques quand vous dites, voilà, il faut comparer les contrats, cette fameuse PPE, etc. Parce que c'est assez technique. On voit souvent un prix d'appel, même s'il est faible aujourd'hui. On va voir, tiens, la promo à 1,50, 1,70% ou 2%, ce qui est pas mal au regard de la moyenne. Mais on a rarement j'ai l'impression, ces informations, elles sont un peu plus techniques.
Elles sont plus techniques. En théorie, si on interroge un assureur, il devrait pouvoir répondre. Mais c'est vrai que c'est pas à ce point public. Après, passer par un courtier, passer par un conseil en gestion de patrimoine indépendant, lui, il aura accès à l'info en étant en contact direct avec la compagnie. Mmh. Donc ça fait partie du travail préalable qui est à faire, oui.
Philippe Bayot.
Oui, simplement, pour compléter le propos de Jean-François, je voulais revenir un instant sur les charmes des arbitrages. Il s'est fait le chantre. Il faut bien voir que l'assurance vie multisupport est le seul vecteur d'épargne longue qui permet à un épargnant français, un résident français, de pouvoir arbitrer entre ses actifs, donc des actifs actions, du private equity, de l'immobilier, des fonds obligataires, et ce, en suspension de tout prélèvement fiscaux ou sociaux. Mmh. Donc, tant que notre consommateur, qui est investi entièrement en unité de compte, ne fait que des arbitrages entre les actifs au sein de l'enveloppe, il n'a aucun prélèvement à subir. Et donc, il peut valoriser son capital de manière la plus efficiente possible. Et ce, sans limite de montant, puisque les sommes investies peuvent être de 100 euros ou de 100 millions d'euros, pour rêver un instant. Également, pratiquement sans limite de champ de jeu. C'est-à-dire que l'éligibilité des supports est tellement souple, la liberté est tellement grande, la qualité des contrats aussi est tellement accrue dans les 7 dernières années, que vous pouvez pratiquement trouver 99% de vos choix financiers au sein de l'enveloppe juridique que constitue la contrat d'assurance et multisupport. Et vous pouvez donc arbitrer, avec comme seule limite, votre intelligence ou l'écoute des meilleures radios patrimoniales pour comprendre vers quel support on doit se porter.
C'est gentil, on le dira aux experts. Alors, on précise effectivement que le panorama effectivement des possibilités, des champs de possibles, s'est considérablement élargi. Au départ, les unités de compte, finalement, c'était des fonds actions, ou fonds obligations, évidemment. Aujourd'hui, on peut, pour poursuivre votre propos, Philippe, on peut donc sur ces fonds actions aller pratiquement dans toutes les zones géographiques, les États-Unis, la Chine, des choses beaucoup plus confidentielles. Mais il y a aussi d'autres classes d'actifs qu'on a vu poindre récemment, l'immobilier notamment. Donc on peut avoir de l'immobilier ou des supports immobiliers, des foncières dans son contrat d'assurance vie. On peut avoir des OPCI, des SCPI, je crois. On peut avoir du private equity, ça fait beaucoup de « i ». Jean-François, je vous donne la parole. Effectivement, ça aussi, c'est une nouveauté. Là. Dans les quelques années, on dirait que ça s'est... Alors, je ne sais pas si ça existait, mais en tout cas, ça s'est développé. On en parle de plus en plus.
Les structures juridiques du contrat le permettaient depuis assez longtemps. Mm-hmm. Mais c'est vrai que l'offre se développe considérablement. Voilà. À la fois sur les contrats français et également sur des contrats qui se développent de plus en plus, qui sont les contrats de droit luxembourgeois. Donc c'est vrai qu'on parle pas mal de l'assurance vie au Luxembourg. On peut mettre, allez, je serais tenté de dire, quasiment ce que l'on veut dans un contrat d'assurance vie. Il faut néanmoins avoir l'agrément de la compagnie. Donc si vous avez repéré un fonds qui vous plaît, mais qui est un fonds très petit, qui aura mm-hmm. peut-être pas trop de liquidités, il faudra quand même que l'assureur vous donne son blanc-seing. Mais dans l'absolu, on peut faire effectivement quasiment ce que l'on souhaite. Vous parliez de l'immobilier, oui, des SCPI, on peut elles sont constitutives d'unités de compte, des OPCI qui sont un peu plus liquides le sont également, des SCI. Donc tout ceci se fait plutôt d'ailleurs dans des contrats français que dans des contrats luxembourgeois. Les contrats luxembourgeois, pour des questions de fiscalité transnationale, sont un peu moins adaptés à ce type de support. En revanche, au Luxembourg, on a accès à d'autres supports beaucoup plus larges.
Alors justement, c'est aussi une innovation. Ce fameux contrat luxembourgeois dont on parle beaucoup et qui a les faveurs d'une partie des... Voilà, peut-être pas des fortunes, mais bon, des gens qui ont déjà une épargne bien constituée. On va en parler dans un instant. Messieurs, je vous propose une petite pause dans cette hebdo patrimoine spéciale assurance vie. On se retrouve juste après avec Philippe Bayot et Jean-François Piro, à tout de suite.
Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, gogo concha y tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo impresioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo veo París desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca.
Et on vient d'écouter l'espagnol Zoilo et Aitana, mon amour.
L'hebdo patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Deuxième partie de cet hebdo patrimoine spécial, assurance vie, les charmes discrets de l'assurance vie, voilà le placement préféré des Français qui continue-t-elle cette assurance vie à être le couteau suisse de l'épargnant ou plutôt, Jean-François Pirot, le couteau luxembourgeois, on va voir ça. Pourquoi justement on vient de finir cette première partie sur cette assurance vie luxembourgeoise, on va voir avec vous les avantages et les différences par rapport à celle de droit français.
Il y a effectivement des différences qui tiennent à l'environnement réglementaire. Pour faire simple, que peut-on mettre dans le contrat au niveau de nos fameuses unités de compte? Il est possible au Luxembourg, ce n'est pas le cas dans tous les contrats, mais d'avoir également un peu de fonds euros. Mmh. Certaines compagnies le proposent, d'autres non. Mais c'est vrai que leur modèle, c'est ce qu'on appelle le fonds interne dédié. Le fonds interne dédié, juridiquement, le client souscrit son contrat auprès d'une compagnie, choisit un gérant et juridiquement, c'est la compagnie d'assurance qui donne un mandat à un gestionnaire financier. Mais le client, lui, je vous disais tout à l'heure, il a toujours la main.
D'accord.
Donc il va choisir son profil d'investissement et au final, il va choisir les briques qu'il autorise le gérant à utiliser. Alors qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport au contrat français ? Il y a des différences en termes de dispersion. Hein. Sur le contrat français, on devra quand même respecter un pourcentage minimum sur tel ou tel actif. Au Luxembourg, si on le souhaite, on pourrait dans l'absolu mettre 100% sur une ligne. Ce serait sans doute pas une bonne idée,
okay. Hein,
parce qu'on est quand même dans des principes de diversification sur la gestion financière. Mais vous voyez que ça autorise une concentration plus forte.
Si je veux tout mettre sur Air Liquide ou LVMH, je peux.
Dans l'absolu, c'est possible.
Hein,
ça serait également possible si je suis puriste sur les contrats français. Hein, mais c'est quand même moins pratiqué et un peu plus compliqué. Hein. Donc le Luxembourg nous permet d'être plus concentré ou pas. Hein. Il nous permet également de mettre des actifs qu'on a moins l'habitude de rentrer dans des contrats d'assurance vie. On pourrait être plus investi sur des devises étrangères, par exemple. Le Luxembourg a une place très ouverte sur l'international, donc on peut investir en dollars, en yens, en ce que l'on veut. La thématique des actifs non cotés, c'est une thématique que nous on aime bien dans la maison que je représente et qu'on a commencé à mettre dans des contrats d'assurance vie il y a 17 ans. Donc on était vraiment précurseur en la matière, ce qui fait qu'on a un bon savoir-faire et financier et opérationnel en la matière. Mais d'un point de vue réglementaire, depuis très longtemps, il est possible de mettre du non coté dans un contrat d'assurance vie. Alors le non coté, c'est je vais investir dans une société non cotée. Et généralement, ça se fait par l'intermédiaire de fonds. Hein. Mais le non coté, c'est une industrie qui est en considérable développement. Hein. On voit que d'ailleurs, les investisseurs institutionnels, eux, investissent à peu près un quart de leurs actifs sur le non coté. Donc eux sont des investisseurs très lourds et mettent une partie croissante de leurs avoirs sur le non coté. Et ça,
d'accord.
Ça rentre vraiment extrêmement bien dans le contrat luxembourgeois, aussi bien ce qu'on appelle le private equity, les actions non cotées, que le private debt, qui est la dette non cotée.
Est-ce que ça peut être les actions de ma propre société ?
Non. Non, ça ce ne sera pas possible parce que le principe du contrat d'assurance vie fait que vous ne pouvez pas avoir une influence sur ce que vous allez mettre dans le contrat.
Il y aurait conflit d'intérêt.
Il y aurait conflit d'intérêt. Donc vous devez donner un mandat et être déconnecté et le gérant n'aurait pas plus le droit de retenir votre société familiale.
Et des stock options enfin, je sais que c'est un peu moins à la mode en France.
Non plus. Là. On va vraiment être sur des unités de compte classiques, réglementées, cotées ou non cotées, mais non, on n'irait pas jusque-là. Non, ça c'est pas
okay.
possible.
OK. Philippe Bayot.
Oui. Simplement pour compléter le propos de Jean-François. Jean-François s'est fait à juste titre le chantre des charmes contractuels de l'assurance-vie au Luxembourg. L'assurance-vie offre également sur un plan macroéconomique un avantage concurrentiel important. C'est si vous envisagez par extraordinaire de vous délocaliser. Imaginez que vous envisagiez demain d'aller vivre sous des cieux plus brillants sur le plan du soleil ou de la chaleur. Alors, le fait de détenir un contrat d'assurance vie à Luxembourg vous offrira toujours un avantage concurrentiel très important parce que les conventions fiscales passées entre le Luxembourg et le pays cible de votre résidence future pour une heureuse retraite, par exemple, seront toujours plus favorables que les conventions fiscales passées par la France.
On sera moins taxé, finalement,
in fine, selon le pays de choix de votre résidence future. Donc ça, c'est vraiment un avantage très important. Également, sur le plan sécuritaire, vous avez un triangle que les Luxembourgeois aiment à mettre en avant, qui sécurise un tout petit peu plus vos actifs, mais n'étant pas paranoïaque, croyant toujours à la pérennité de l'assurance-vie, je ne suis pas un spécialiste de cette sécurité-là, parce que je crois qu'elle est superfétatoire et que les contrats d'assurance-vie français souscrit auprès d'entreprises françaises, offrait déjà une très belle sécurité.
Oui, c'est vrai que c'est une question qu'on ne peut pas éluder. Souvent, on entend, il ne faut pas mettre plus de 100 000 euros, car il n'y aurait pas de garantie au-delà. Est-ce que c'est un mythe, c'est une réalité, c'est une possibilité ?
Alors, cette idée des 100 000 euros est très ancienne, puisqu'elle était développée par le notariat dans les années 60, 70, 80, en disant qu'il ne faut pas mettre plus de telles sommes en assurance-vie. Simplement, à l'époque, elle était raisonnable, cette proposition, parce que l'assurance-vie rimait avec fonds en euros. Donc, il n'était pas raisonnable d'aller mettre la totalité de son patrimoine sur une seule enveloppe financière, une seule logique financière. Il fallait se diversifier. Mais comme Jean-François vient de vous la développer brillamment, l'assurance-vie permet d'être investi en actions, en obligations, en immobilier, en private equity. Et donc, il n'y a plus de limites théoriques à la part d'un patrimoine qu'on peut affecter à l'assurance-vie. Vous pouvez très bien, sur le plan financier, y mettre 100% de votre patrimoine. Sur le plan juridique également, et sur le plan fiscal, il n'y a pas plus de limite. Il y a juste une limite. Vous n'allez pas, quand vous êtes dans une maison de soins palliatifs, aller souscrire un contrat d'assurance vie.
Ça peut être retoqué, effectivement. Voilà. Si vous êtes en fin de vie et que vous mettez tout au dernier moment sur le contrat d'assurance vie.
Clairement, ce serait constitutif d'un abus de droit. Et l'assureur même qui accueillerait cette souscription commettrait une faute par rapport à la profession et par rapport à son client. Mais pour le reste, sous réserve de ces hypothèses extrêmes, l'assurance vie multi-support, avec tout le développement décrit par Jean-François il y a un instant, ne connaît pas de limite financière.
Jean-François, tiens, la contrepartie de ce contrat en assurance vie luxembourgeois, est-ce que, du coup, il offre des avantages, notamment fiscaux, si on part à l'étranger pour sa retraite dorée ou ensoleillée, est-ce qu'en contrepartie, il est un peu plus cher que le contrat ? On est sur la même...
Le contrat luxembourgeois ?
Oui.
Non. Non.
D'accord. Les frais, justement, c'est quoi la moyenne ? On sait que y a une fourchette à peu près sur les fonds euros, sur les unités de compte. Combien ça va coûter ?
Non, les frais seront les mêmes. Si je veux prendre un chiffre un peu simple à retenir, si on dit 1%, un peu à la hausse, un peu à la baisse, ce sera la même chose entre le Luxembourg et la France.
D'accord.
Les contrats sont plus élaborés. Vous avez accès à une machine plus jolie, plus performante, mais pour moi, quasi au même coût. Donc, plutôt intérêt à y aller.
Alors, pour éclairer vos auditeurs, il faut savoir que la CPR est en train de travailler sur les structures de frais du marché français en pratique, et donc réfléchit beaucoup sur la justification de ces frais. L'important, ce n'est pas le montant des frais, c'est la valeur ajoutée que chaque intermédiaire va pouvoir apporter à son épargnant. Et donc, il est très clair que l'assurance vie se caractérise par un double niveau de frais, puisque vous avez les frais contractuels, dû aux capitaux qu'on doit mettre en place pour souscrire un contrat d'assurance vie conformément au code des assurances et qui sécurise les épargnants. Et ensuite, la structure de frais de la SICAV ou de l'actif de détention au sein de l'enveloppe multisupport que constitue un contrat d'assurance vie. Donc l'assurance vie sera toujours un tout petit peu plus cher qu'une détention en direct de titres sur votre compte titre.
Oui.
Mais va vous offrir des avantages fiscaux très significatifs. Et d'autre part, la possibilité de procéder à des arbitrages en suspension de prélèvements fiscaux et sociaux. Donc,
on peut changer facilement justifier. D'enveloppe.
Oui, et il faut toujours que le consommateur soit accompagné par un conseiller, quel que soit le statut de ce conseiller, courtier, agent général, salarié ou banque privée, qui lui apporte une valeur ajoutée sur l'allocation de ses actifs et l'adéquation de cette allocation d'actifs par rapport à sa morphologie patrimoniale, puisque nous évoluons tous. Nous pouvons être dans une situation d'investissement massif en actions, puis dans un temps plus connaître une période de chômage et devoir donc diminuer son exposition au risque, ensuite être retraité et pouvoir l'exposer de nouveau au risque, ainsi de suite. Et donc l'important, c'est que le conseiller puisse accompagner l'épargnant pour adapter la morphologie du placement à sa morphologie patrimoniale.
Voilà, et avoir la vision d'ensemble, évidemment, du patient, pour reprendre votre analogie, voir aussi. Mais non, mais c'est vrai, parce que les allocations sont différentes en fonction des gens, bien évidemment.
Bien,
on va être sur un profil risqué. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'enjeu pour tous nos concitoyens en ce moment de se dire, tiens, sortir de ce fonds euro qui, on le sait, sur le long terme, va être quand même pénalisé, hein, on l'a dit en début d'émission, et se mettre de plus en plus sur les unités de compte, et en se disant, finalement, que la bourse sur le long terme, on voit quand même qu'elle repart. Voilà, on est sur des nouveaux plus hauts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est un gros challenge, non, pour vous, ou les clients vous suivent là-dessus ?
C'est pas vraiment un challenge, c'est notre activité. On voit plutôt
c'est notre conviction aussi.
C'est notre conviction, et effectivement, c'est le mouvement que l'on met en avant. Après, on peut le faire de manière assez progressive, au sein de l'enveloppe dont parlait Philippe, sans aucun frottement fiscal. On peut le faire en allant sur des supports plus ou moins risqués. Il y a des gradations comme ça en termes de risque. On peut sortir du fonds euro, parler de supports immobiliers, on peut parler de produits structurés qui vont offrir des garanties en capital. Donc on peut y aller progressivement. Et pour avoir différentes strates au sein de son contrat. On peut garder quand même toujours une poche sécuritaire et un peu de fonds euros, même si l'inflation est là, rendra service, et puis progressivement dynamiser son patrimoine. Mais si on veut faire grossir ses actifs, il n'y a pas le choix. Il faut aller sur des unités de compte. Et en ce moment, à l'instant où on se parle, bon, le début de l'année est un peu compliqué sur les marchés actions, mais il n'y a que l'action coté ou non coté, qui va vous permettre vraiment de faire un réel saut au niveau de l'augmentation et de la valorisation de votre patrimoine.
Philippe Bayot.
Mais l'important, c'est d'inscrire la démarche de Jean-François dans une approche réellement globale. Mm-hmm. Donc prendre en considération non pas ce que vous avez dans votre contrat d'assurance vie multisupport ou vos contrats d'assurance vie multisupport, puisque vous pouvez en détenir plusieurs, mais votre patrimoine global. Et en simplifiant, en fait, nos auditeurs ont 65% déjà de leur patrimoine en immobilier.
C'est vrai, le français, donc, là, voilà. Je disais placement des préférés des Français, attention, placement financier, voilà. Le placement par excellence étant la pierre.
Donc au sein, quand on écarte déjà ces 65%, on peut prendre des risques d'une nature tout à fait différente. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment cette approche globale de dire est-ce que je peux être investi en actions et quel est mon horizon de temps ? Est-ce que je suis dans une situation où je vais devoir acquérir une résidence secondaire dans les 6 mois, auquel cas le fonds en euros est l'alpha et l'oméga, on ne peut pas sortir de ce fonds en euros. Inversement, s'il s'agit pour vous, par exemple, qui êtes si jeune, oui. de préparer votre retraite dans 40 ou 45 ans pour financer ma retraite, eh bien, à ce moment-là, il faut être clairement investi en actions. Oui. Et de préférence, d'ailleurs, toujours d'une approche globale, en actions peut-être non françaises, puisque je peux présumer que vous êtes déjà propriétaire de votre résidence principale en France, donc vous avez un risque majeur par rapport à votre capital en France. Vous avez un travail en France également. Et donc le reste pourrait être investi utilement grâce à la souplesse de l'assurance-vie au sein d'actions, par exemple, non résidentes des États-Unis ou de Chine. Ça, c'est
États-Unis, Chine. Bon, après, on a des pépites aussi en France. Voilà. Hein, voilà. Si on a envie d'être investi dans le luxe, on reste quand même... Oui. C'était pas mal.
Mais en réalité, être investi dans le luxe, c'est à 90% être investi déjà en Chine et aux États-Unis à travers Louis Vuitton, Moët & Cie, qui fait l'essentiel de son travail, de sa création de valeur à l'extérieur. Donc l'idée, c'est vraiment de diversifier grâce à l'assurance-vie et au champ de l'assurance-vie. Et sur le plan juridique, l'assurance-vie permet toutes les diversifications. Autant utiliser cet outil qui est très simple à consommer et qui est formidablement pertinent.
Une question, tiens, sur ces nouveaux contrats, vous avez dû les connaître, Jean-François Pirot, les observer. Alors, ce sont souvent des courtiers, d'ailleurs, en ligne, hein, qui font du 0%, ça, on est habitué, d'entrée, en tout cas. Mais après, qui ne choisissent pas, en fait, finalement... comme vous l'avez dit tout à l'heure, de faire telle ou telle action, mais qui prennent des ETF, c'est-à-dire ces fameux fonds qui vont constituer tout le CAC 40, tout le Dow Jones, toute la zone Asie, et offrir des rendements assez sympathiques, puisque c'est vrai que ce sont, de par leur construction, des fonds qui ont beaucoup moins de frais. Est-ce que ça va... c'est très utilisé déjà aux États-Unis. Est-ce que ça va arriver en France? Est-ce que les clients vous en parlent?
Oui, ça se développe. On les utilise. L'avantage de l'ETF, c'est de permettre d'être aussi très ciblé sur un investissement et puis d'être très réactif également. Donc on les utilise lorsqu'on veut avoir une gestion centrée sur ce que reproduit l'ETF. Oui, ça fait partie de nos briques, des unités de compte. Et vous avez raison de dire, ce sont aussi des types d'investissements qui coûtent un peu moins cher, donc ils sont réactifs, intéressants. Ça fait partie des briques au niveau des allocations d'actifs que l'on utilise. Oui.
D'accord. Le placement, je vais réagir dans un instant, Philippe Bayot. Placement action aussi, c'est possible. On a vu des nouvelles races de contrats avec un placement action où on peut acheter justement du LVMH ou du Google ou peu importe. Ça, c'est possible aussi d'avoir des actions en direct.
Ah oui, on peut vraiment avoir des titres vifs.
On peut monitorer son portefeuille. On sait les comptes titres. Bon, on achète, on vend. On peut le faire pour les traders actifs. Est-ce qu'on aura la même souplesse dans un contrat d'assurance vie?
On a la même souplesse. On n'aura pas nécessairement la même réactivité, puisqu'il faut tenir compte quand même de l'enveloppe assurantielle et du back-office de l'assureur. Mais oui, dans nos unités de compte, on a des fonds, des SICAV actions, pour rester sur la thématique actions, mais on peut vraiment acheter des titres vifs. Après, il faut que le contrat que va souscrire le souscripteur le permette. Vous avez raison de dire les contrats nouvelle génération le permettent. Ça, pour le coup, c'est plus récent. Mais oui, on peut investir en titres vifs. On peut panacher du titre vif avec des ETF et des belles SICAV ou fonds communs de placement, actions, France, européenne et monde. Oui, on peut utiliser tout ça.
Philippe Bayot, sur les ETF ou sur les actions?
Sur les ETF, en fait, la problématique que vous soulevez, c'est la valeur ajoutée apportée par un intermédiaire à son client, à son épargnant, en l'occurrence. Oui. Et là, en matière d'assurance vie, il faut qu'à chaque étape du champ de valeur ajoutée, on puisse apporter de la valeur. Au niveau de l'enveloppe juridique de l'assurance, il faut par exemple bien travailler, optimiser la clause bénéficiaire. Mmh. C'est un travail très très approfondi qui peut créer beaucoup de valeur ou en détruire si cette enveloppe n'est pas adaptée, encore une fois, à la morphologie patrimoniale évolutive de l'épargnant, et ou à l'ancienneté fiscale de chaque contrat, puisqu'il va falloir, dans cette optimisation, donc faire un jeu très subtil entre la rédaction de la clause et l'ancienneté des contrats qui peuvent profiter, selon les cas, d'une fiscalité favorable ou pas favorable. Et une fois que vous avez créé cette enveloppe assurance, au sein de l'enveloppe, il faut-il aussi que l'allocataire d'actifs crée de la valeur. Mmh. C'est toute la problématique du combat entre la souscription de SICAV, où vous avez un gérant qui va travailler au quotidien pour essayer de battre son indice. Et s'il bat son indice, très très clairement, il crée de la valeur. Oui. Ou s'il ne le bat pas, évidemment, à ce moment-là, on peut opter pour les ETF, pour autant qu'on ait choisi le bon support, le bon marché.
Ouais. Une petite remarque, pardonnez-moi, je crains de ne pas avoir tout compris. Dans les bénéficiaires, on prend le cas simple, hein, j'ai l'assurance vie, madame, deux enfants. On va éviter les familles recomposées, la maîtresse,
l'amant,
bien sûr, non, c'est sûr. Bref, donc ce cas classique, comment on peut optimiser son patrimoine dans ces cas-là en fonction de l'âge des contrats? J'ai pas bien compris.
Une chose très simple, vous avez des contrats très anciens qui sont exonérés de droits de transmission en cas de mort. Si vous mettez sur un contrat très ancien madame comme bénéficiaire, c'est un peu du gâchis parce que madame, du fait de la loi TEPA, est d'ores et déjà exonérée.
On parle de contrat très très ancien, enfin c'était avant l'an 2000.
Oui, avant l'an 2000, mais parce que vous êtes très jeune.
Oui,
mais
voilà.
Pour des vieux barbons comme Jean-François et moi, c'est un petit peu différent, surtout, je parlais surtout pour moi naturellement. Mais
donc il faut attention à ne pas, qu'il y ait redondance effectivement entre les avantages en la transmission directe.
Et dans ce cas-là, naturellement, vous mettrez votre maîtresse qui, elle, ne serait pas exonérée de droits de succession comme bénéficiaire. Pour autant que vous arriviez à cacher ce contrat à votre épouse, parce que sinon la scène de ménage est assurée.
Oui, effectivement.
Mais juste pour reparler de fiscalité successorale, même un contrat nouveau que l'on serait amené à signer aujourd'hui offre de belles poches d'exonération fiscale, sans forcément aller chercher des tout vieux contrats. Philippe disait tout à l'heure qu'il y a un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Mmh. Et on peut multiplier le nombre de bénéficiaires. Donc même sur un contrat nouveau, aujourd'hui, il y a de belles poches de défiscalisation, effectivement, d'exonération de fiscalité successorale.
Un dernier point, tiens, ça concerne le contrat au jour le jour. Ceux qui en ont et qui l'ont souscrit depuis déjà 8 ans, on peut effectuer déjà des retraits. Parlez-nous-en, parce que c'est quelque chose qui, à mon avis, est méconnu. On peut avoir, du coup, on peut bénéficier, si on a besoin de revenus complémentaires, de 4 600, voire 9 200 euros par an et par ménage.
Exactement. Alors cet abattement existe. Il faut bien avoir en tête qu'il ne joue qu'après 8 ans. Donc je vous disais tout à l'heure qu'à tout moment, on peut racheter et qu'on est libre sur son contrat. Mais si on attend 8 ans, le taux le plus bas pourra être obtenu sur le contrat d'assurance vie. Et dès lors qu'on utilise cet abattement de 4 600 euros pour un célibataire ou 9 200 euros pour un couple, on ne sera amené à payer que des prélèvements sociaux. Donc les prélèvements sociaux de 17,2, mais les 12,8 si on parle de la flat tax qui est actuellement de 30, ces abattements vont nous permettre de ne pas payer les 12,8 de flat tax et paiera que 17,2. Donc la fiscalité la plus faible actuellement sur un contrat d'assurance vie, dès lors qu'il touchera les 8 ans, c'est donc uniquement la CSG, sur des montants de rachat qui seront plus limités, mais qui néanmoins, dans l'optique de la retraite, permettront de faire des retraits réguliers chaque mois, chaque trimestre, d'avoir un complément de revenus peu fiscalisé, effectivement.
Philippe, c'est une astuce en fait qu'on voit souvent apparaître en fin d'année, sur les sites financiers spécialisés, et on se dit mince, c'est un peu tard parce qu'il faut quand même prendre un petit peu le temps de le faire. Est-ce qu'il y a une bonne façon de le faire en début d'année, en fin d'année?
Ah, c'est exactement le propos de Jean-François, c'est utiliser cette astuce sur la longue durée, par exemple, de la retraite. Mmh. La phase de retraite, vous consommez le capital constitué pendant votre phase d'activité, et là, vous avez un moyen le plus élégant à la disposition d'un résident fiscal en France pour optimiser la fiscalité directe qu'il peut subir sur les retraits. Donc là, vous ne pouvez pas avoir mieux sur le marché français. Et pour autant que vous ayez créé de la valeur, parce que l'important, ce n'est pas d'avoir optimisé la fiscalité, mais d'avoir créé de la valeur. Donc si vous avez bien investi, selon les propos de Jean-François, en actions ou en actifs de private equity, par exemple, on aura créé de la valeur. Et on pourra donc pendant 10, 20, 30 ans, ce faisant, bénéficier de cet abattement. Sachant que nous subissons, notre ouvrage, et c'est l'inflation que subit notre ouvrage, c'est l'effet de second tour. Donc évidemment, à chaque élection présidentielle, il peut y avoir une remise à plat de la fiscalité. Mais je voulais, avec Jean-François, attirer votre attention sur le fait que les projets actuels sont tous associés à l'application d'une clause de grand-père qu'est-ce que c'est que cette clause du grand-père, en simplifiant à l'extrême. Ça signifierait que si la fiscalité de l'assurance vie venait à être modifiée au lendemain d'une présidentielle qui apparaît dans quelques semaines,
quelques mois maintenant,
eh bien, ces changements pourraient ne s'appliquer qu'aux contrats nouveaux ou aux versements effectués au lendemain de son adoption. Donc c'est très intéressant et c'est très sécurisant d'ailleurs pour les
pas de droit rétroactif,
a priori.
Parfait. La fiscalité de l'assurance vie, un ouvrage qu'on peut trouver l'Argus de l'assurance édition, Philippe Bayot, Jean-François Pirot, et puis il y a un troisième larron, Marc-Thomas Marotel, s'il n'est pas avec nous, mais qui a dû quand même contribuer. Voilà, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez le trouver. En tout cas, un grand merci à nos deux invités du jour, Philippe Bayot, enseignant à Paris, hein, droit de l'assurance. Merci Philippe. Jean-François Pirot, Managing Director à Rothschild, Martin Morel. Merci à vous pour ces explications. C'était très clair. Ce numéro de l'hebdo se termine. Vous pouvez le retrouver évidemment en replay. Et on vous donne rendez-vous, bien évidemment, dès la semaine prochaine.
L'hebdo patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.